بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Donc on a plus beaucoup de temps, donc on va passer directement au deuxième cours, la fin de ce qui concerne l'obéissance au gouvernement. On a compris le sujet, alhamdoulillah. On va le passer, il y avait un petit dernier paragraphe à lire. On va le passer, comme ça on rentre dans la deuxième partie du cours, inshallah, directement. Et de toute façon, vous pourrez trouver en écrit sur notre site spfgarivian.com, inshallah, et pour les phrases arabophones, et bien le livre de Cheikh Najmi à consulter, inshallah. Donc la deuxième partie, c'est la parole de l'imam Barbahari, rahimahullah. L'assas alladhi tubna alihi jama'atu hum ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anhum ajma'in, wa hum ahlus sunnati wal jama'ah. فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلال وأهله في النار. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بجلت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. Donc l'imam Barbahari rahimahullah ta'ala, il dit, et la base sur laquelle s'établit le groupe uni, ce sont les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car elle les agrée tous. Et ils sont les gens de la sunna, du consensus. Celui qui ne prend pas d'eux se sera égaré et aura innové. Et toute innovation religieuse est un égarement, et l'égarement et ces gens sont en enfer. Omar ibn Khattab, quand elle agrée, il a dit: aucune excuse pour celui qui commet un égarement pensant que c'est une guidée, ni pour celui qui abandonne une guidée pensant que c'est un égarement. Les choses ont été éclaircies et la preuve a été établie. Et il n'y a plus d'excuses, et ceci par la sunna et le consensus. Et ceci car la sunna et le consensus ont établi toute la religion qui a été clarifiée aux gens. Les gens se doivent donc de suivre. Et ce athar, cette parole d'Omar ibn Khattab, elle était rapportée par Ibn Battah dans l'Ibn al-Kubra. Maintenant l'explication de Cheikh Ahmed Mejmi, et ce cours ici sera plus court que le précédent, donc on n'a plus beaucoup, inshallah, hein, pour qu'on puisse terminer plus ou moins vers 5h, inshallah. Donc Cheikh Najmi, rahimahullah, il dit: Qultu ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam hum asasun nahji salafi alladhi yasiru alayhi ahlus sunnati wal jama'a wa man hum ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Al-jawab: ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kullu man sahibahu walau sa'atan aw laqiyahu walau marratan. Hada ta'rifu as-sahaba. وقد قال أهل المصطلح: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ردة في الأصح. وهذا التعريف يشمل من عقل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه في حال تمييزه. إذن فلا بد أن يكون الصحابي الذي يقال له صحابي أن يكون عند لقائه للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج بهذا القيد الذين أتي به من النبي صلى الله عليه وسلم فحنكهم وهم صغار بعد الولادة كابن أبي طلحة ومحمد بن أبي بكر وأمثالهم، فإنهم لا يعدون صحابة. وأما القول بأنه لو تخلت ردة فإنها لا تخرج عن كونه صحابي كالأشعث بن قيس وطليح الأسدي وعمر بن معد يكرب وعيينة بن حزم وأمثالهم، فإن هؤلاء قد كانت لهم جفلة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عادوا إلى الإسلام بعد ذلك ونفع الله بهم في الفتوح. وعلى هذا فلم يزل عن أحد منهم اسم الصحابي وإنما يزول عمن ارتد ومات على ردة كالرجال ابن عنفه الحنفي الذي شهد لمسلمة بأنه نبي. L'explication de Cheikh Najmi rahimahullah, il dit: les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont la base de la voie salafia sur laquelle cheminent les gens de la sunna, du consensus. Qui sont les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? La réponse: les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont toute personne qui l'a accompagné, et ce même si ce n'est qu'un court moment, où l'a rencontré, et même si ce n'est qu'une fois. Voilà donc la définition du compagnon. Les gens de la science du vocabulaire du hadith ont dit: le compagnon est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en croyant en lui et qui est mort sur cette foi. Et c'est même si cela a été entrecoupé par une période d'apostasie, selon l'avis le plus juste. Cette définition englobe celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en âge de raison. Donc, il faut absolument que celui qui est nommé compagnon, pour qu'il soit nommé compagnon, qui lorsqu'il rencontre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, croit qu'il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On exclut donc de cette définition ceux qui ont été amenés petits au prophète sallallahu alayhi wa sallam après leur naissance, pour qu'il leur frotte le palais avec un peu de date, ce qu'on appelle technique à la naissance, hein, comme Ibn Abi Talha et Mohammed Ibn Abi Bakr et d'autres dans le même cas, car ils ne sont pas considérés comme étant des compagnons. Tandis que la vie selon laquelle, même si la période a été entrecoupée par une période d'apostasie, cela ne lui fait pas perdre le titre de compagnon, comme l'Ash'ath ibn Qays et Talih al-Asadi et Amr ibn Ma'd Yakrib et Uyayna ibn Husn et d'autres dans le même cas. Ceux-là ont eu un sursaut après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont revenus à l'islam. Et Allah les a rendus utiles dans les conquêtes, et aucun d'entre eux n'a perdu le titre de compagnon, qui n'est perdu que par celui qui apostasie et meurt dans cet état d'apostasie. Comme Ar-Rajjal ibn Anfur al-Hanafi, qui attesta que Mousseilima était un prophète. Quant à la préscience des compagnons, le Cheikh va parler maintenant de Fadl al-Sahaba. Amma Fadl al-Sahaba fa fi ayatun wa ahadith. فمن الآيات قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وكقوله سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وكقوله تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وكقوله تعالى في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام أصحابه واتباع آثارهم وسننهم فقال في حديث الافتراق في وصف الفرقة الناجية هم الذين على مثل أنا عليه وأصحابي وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc, Cheikh, il rapporte la préscience des Sahaba, et il dit le Cheikh, quant à la préscience des compagnons, on a à ce sujet des versets coraniques et des hadiths. Parmi les versets, nous avons les versets dont la traduction du sens est Mohammed est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers Al-Kuffar, miséricordieux entre eux, tu les vois inclinés, prosternés, recherchant auprès d'Allah grâce et agrément. Surat Al-Fath, verset 29. Et les versets dont la traduction du sens est Allah accueille les repentirs du prophète, des émigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi à un moment difficile, après que le cœur d'un groupe d'entre eux était sur le point de dévier, puis il accueille leur repentir car il est clément et miséricordieux envers eux. Surat Tawbah, verset 117. Et le verset dont la traduction du sens est « D'autres parmi les bédouins croient en Allah et au jour dernier et voient ce qu'ils dépensent comme un moyen de se rapprocher d'Allah et que le messager invoque Allah pour eux. Certes, cela les rapproche d'Allah. » Et Allah les fera entrer sous sa miséricorde. Allah est vraiment pardonneur et miséricordieux. Les premiers croyants parmi les émigrés, les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, Allah les agrée et l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux où ils demeureront éternellement. Voilà l'immense succès. Surat Tawbah, versets 99 et 100. Et le verset, dont la traduction du sens est, les pauvres parmi les émigrés qui ont été expulsés de leur demeure et privés de leurs biens cherchent une grâce et un agrément d'Allah. Et ils secourent Allah et son messager, ceux-là sont les véridiques. Et ceux qui se sont installés et ont cru avant eux aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que les auxiliaires ont reçu. Et ils leur donnent même s'ils sont dans le besoin. Et ceux qui se protègent contre leur propre avarice sont ceux qui réussissent. Et ceux qui sont venus après eux disent « Seigneur, pardonne-nous » ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne placent à nos cœurs aucune rancœur contre ceux qui ont cru « Seigneur, tu es indulgent, miséricordieux » Surat Al-Hasr, verset 8 à 10. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'honorer ses compagnons et de suivre leurs traces et leurs sunnah. Il dit dans le hadith de la division lors de la description du groupe sauvé, ce sont ceux qui sont sur ce que je suis moi et mes compagnons. Et dans le hadith, al-Irbad ibn Sariyah, qu'Allah l'agrée, attachez-vous à ma sunnah et à la sunnah des califes droits bien guidés.
Mordez-y avec vos molaires et prenez garde aux choses nouvelles dans la religion. Car toute chose nouvelle dans la religion est une innovation dans la religion et toute innovation dans la religion est un égarement. Et le hadith est authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Irwa al-Ghalil. Maintenant, Ibn Battah rahimahullah, il a rapporté dans l'Iban al-Kubra من عدة طرق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب في الجابية فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كمقامي فيكم فقال أحسنوا إلى أصحابي وفي رواية أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث وفي قصة بني جذيمة عندما أمر خالد بن الوليد باستمرار القتل فيهم وهم يقولون صبأنا يعني أسلمنا فنهاه عبد الرحمن بن عوف وحصلت بينهم مقاولة فقال خالد بن الوليد لعبد الرحمن بن عوف ما تفخرون علينا إلا بأيام سبقتمونا بها فشكى عبد الرحمن خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه وفي رواية لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وإذا كان هذا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي متأخر في حق صحابي متقدم فما بالك بغيرهم donc شيخ il dit Ibn Battah il a rapporté dans son livre l'Ibn al-Kubra avec plusieurs chaînes de transmission qu'Omar ibn Khattab qu'elle a agréé à donner un sermon à Jabiya on a déjà cité ce hadith il a dit le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم se tient parmi nous comme je me tiens parmi vous et il a dit soyez bons envers mes compagnons Et dans une autre version, je vous recommande mes compagnons, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent, jusqu'à la fin du hadith. Il était rapporté dans le récit de Banu Judayma, lorsque Khalid ibn Walid, il ordonna de continuer à les combattre, alors qu'on dit, nous nous sommes convertis à l'islam, Abdurrahman ibn Auf lui reprocha alors cela. Et il y eut alors une discussion entre eux. Khalid ibn Walid dit à Abdurrahman ibn Auf, vous ne nous surpassez que de quelques jours par lesquels vous nous devancez. Abdurrahman se plaignit alors de Khalid ibn Walid au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, n'insultez aucun de mes compagnons. Si l'un d'entre vous venait à donner en aumône la valeur de la montagne d'Uhud en or, cela n'équivaudrait pas à un mout de leur aumône ni même à la moitié. Et ce hadith est rapporté par le Bukhari muslim. Et dans une autre version, n'insultez pas mes compagnons. Si l'un d'entre vous venait à donner en aumône la valeur de la montagne d'Uhud en or, cela n'équivaudrait pas à un mout de leur aumône ni même de la moitié, à la moitié. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cela à un compagnon dont l'islam fut postérieur, au sujet d'un compagnon dont l'islam est antérieur. Que dire alors au sujet d'autre que hein? Il a été mis en évidence, le cheikh il dit, وَقَدْ تَبَيَّنَ مِنْ هَذَا الْعَرْضِ أَنَ الصَّحَابَةَ رضي الله عليهم هم أساس أهل السنة والجماعة فلم يأخذ عنهم فإنه يعتبر قد ضل ويستدل على ذلك بالخوارج الذين كفروهم ولم يأخذوا السنة عنهم فمن أجل ذلك ضلوا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فرقة الخوارج يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية وأنهم شر الخلق والخليقة وأنهم كلاب النار وما ذلك إلا لأنهم تركوا السنة التي حملها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينفعهم قراءتهم للقرآن ولا كثرة صلاتهم وعبادتهم بل كانوا كلاب النار كلاب النار وقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وفي رواية عليك السلام قتل ثمود الحديث ما هو السبب الذي جعل الخوارج يضلون السبب الذي جعلهم يضلون أنهم تركوا المصدر الثاني من مصادر الشريعة وكفروا حملته وأنكروا فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكموا عليهم بالردة والخلود في النار ورأوا الخروج على الولاة فخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقاتلهم حتى قتل فيهم مقتلة عظيمة وعلى هذا فمن ابتغى الهدى من غير مصادره أضله الله Donc Cheikh Hadith, il a été mis en évidence à travers cet exposé que les compagnons sont la base des gens de la sunna du consensus. Celui donc qui ne prend pas d'eux est alors considéré comme s'étant égaré. On peut utiliser pour preuve de cela les Khawarij, qui les ont jugés mécréants et n'ont pas pris d'eux la sunna. C'est pour cela qu'ils se sont égarés et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que le groupe des Khawarij traverse l'islam comme la flèche traverse la cible et qu'ils sont les pires des gens et les pires des créatures et qu'ils sont les chiens de l'enfer. Et ce n'est que parce qu'ils ont délaissé la sunna que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont porté. Ni leur lecture du Coran, ni leurs nombreuses prières, ni leur adoration ne leur ont été utiles. Mais de plus, ils sont les chiens de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet, si je les rencontrais, je les tuerais comme le peuple de Had.
dans une autre version, comme le peuple de Thamoud, jusqu'à la fin du hadith. Quelle est la raison qui les a conduits à s'égarer? La raison qui les a conduits à s'égarer est qu'ils ont délaissé la deuxième source de la législation et ont jugé ses porteurs mécréants et ont nié les mérites des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ont jugé qu'ils étaient des apostats et qu'ils étaient voués à l'enfer éternel et ont permis la rébellion contre les gouverneurs. Ils se rebellèrent donc contre Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agré, qui les combattit jusqu'à tuer un grand nombre d'entre eux. Donc celui qui cherche la guidance en autre que ses sources, Allah l'égare. Puis le cheikh continue en disant: ومصادر الشريعة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يغني أحدهما عن الآخر فالقرآن لا يعرف معناه ومقاصده إلا بالسنة وبعمل الصحابة رضوان الله عليهم وقد أنكر عمران بن حسين رضي الله عنه على من قال له لا تتحدثوا إلا بما في القرآن فقال له عمران بن حسين إنك لأحمق أوجدت في القرآن صلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 لا تجهر في شيء منها والمغرب 3 تجهر بالقراءة في ركعتين ولا تجهر في ركعة والعشاء 4 ركعات تجهر بالقراءة في ركعتين ولا تجهر بالقراءة في ركعتين والفجر 2 تجهر فيهما بالقراءة يعني أن السنة مبينة للقرآن والذين بلغوا السنة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليهم مدار السنة وبهم الاقتداء وفيهم القدوة وعلينا الاتباع لطريقتهم ونهجهم وما كانوا عليه ومن لم يفعل ذلك فقد ضل وابتدع. Les sources de la législation sont le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. L'un ne peut se passer de l'autre. On ne connaît l'essence du Coran et ses buts que par la sunna et par la pratique des compagnons qu'Allah les agrée tous. Imran ibn Hussein, qu'Allah l'agrée, radiallahu anhu, il réprouva quelqu'un qui dit: ne parlez qu'avec ce qu'il y a dans le Coran. Imran ibn Hussein lui dit alors: tu es certes fou. As-tu trouvé que dans le Coran la prière de Dhuhr est de 4 unités de prière et la prière du Asr est de 4 unités de prière en le disant en rien à voix haute et le Maghrib 3 dans 2 où tu récites à voix haute et une à voix basse? Et l'Isha, 4, donc 2 où tu récites à voix haute et 2 à voix basse. Et l'Fajr, 2 où tu récites à voix haute. C'est-à-dire que les détails de la prière, ils sont où? La prière, elle est dans le Coran. Mais les détails de la prière, ils sont où? Dans la Sunna. Donc si tu dis, ne prenez qu'est-ce qu'il y a dans le Coran, c'est pas correct. C'est-à-dire, une secte qu'on appelle Coranien, ils disent, on prend pas de la Sunna. Hein? Et quand tu demandes combien tu pries de Rak'a dans le Maghrib, tu dis 3. Tu t'as trouvé ça dans le Coran? Non. Hein? Donc vous voyez la contradiction. Et ça, c'est rapporté par Ibn Battah dans Ibn al-Kubra. Puis Cheikh il dit, c'est-à-dire que la sunna explique le Coran. Et ceux qui ont transmis la sunna, ce sont les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont donc le pivot de la sunna. Et ce sont eux qu'il faut suivre. Ils sont les modèles à suivre. Et nous êtes obligatoires de suivre leur chemin et leur voie. Et c'est sur quoi ils étaient. Et celui qui ne fait pas cela s'est égaré et a innové dans la religion. L'imam le Barbahari, le Cheikh dont on... l'imam dont on suit le livre, il a dit, rahimahullah, « Wa kullu bid'atin dalala » أي كل ما ابتدع في الدين فهو ضلالة لأن المبتدع يلزمه بابتداعه أمران إما أن يقول إن الإسلام قد كمل وليس بحاجة إلى زيادة ولا إلى تكميل وحينئذ يعتبر قد شهد على نفسه بالضلالة لأنه أدخل في الدين ما ليس منه وإما أن يقول أن الدين ليس بكامل وهذا يلزم كل مبتدع فكأنه يقول بلسان حاله أن الدين ناقص فهو يحتاج إلى إكمال وهذا فيه استدراك على القرآن واتهام لمبلغ الشريعة صلوات الله وسلامه عليه بأنه قد انتقص من الشرع أو جهل شيئا منه وهذا مبتدع يدعي أنه علم ما لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فمن لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا ومن هنا يتبين أن كل بدعة في الإسلام فهي تسمى ضلالة لا لاستلزامها هذه الأمور وقد جاء في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه وأرضاه فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثة الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي بعض الروايات وكل ضلالة في النار ولهذا جاء هنا والضلال وأهله في النار. L'imam Barbahari, rahimahullah, il a dit, et toute innovation religieuse est un égarement. C'est-à-dire que tout ce qui a été innové dans la religion est un égarement. Car l'innovateur dans la religion, son innovation implique deux choses le concernant. Soit qu'il dise que l'islam est complet, et non, n'est pas en besoin d'ajout ni de complément, et donc il est considéré comme ayant attesté lui-même de son propre égarement. car il a fait entrer dans la religion ce qui n'en fait pas partie. Soit qu'ils disent que l'islam n'est pas complet, et c'est nécessairement le cas de tout innovateur dans la religion. C'est, car c'est comme s'il signifiait par sa situation que la religion n'est pas complète. Et que donc elle a besoin d'être complétée. Ceci est un égarement et une prétention à rectifier le Coran. Et une accusation contre celui qui a transmis la législation, sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir retiré quelque chose de la religion ou d'en avoir ignoré quelque chose. Et cet innovateur prétend savoir ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas. Vous voyez le danger de la bid'a. C'est pour cela que l'imam Malik, rahimahullah, il a dit: quiconque innove quelque chose à la religion considérant cette innovation comme bonne aura prétendu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Car Allah a dit, c'est dans la traduction du sens est, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion. Surat al-Ma'ida verset 3. Ce qui donc ne faisait pas en ce temps-là partie de la religion, ne fait pas non plus de nos jours partie de la religion. Et c'est rapporté par Al-Shatibi dans les Etisam, c'est un livre que j'ai déjà cité hier dans un des cours. Et cela met donc en évidence que toute innovation en islam est appelée égarement, en raison de ce qu'elle implique comme chose. Il a été rapporté dans le hadith Al-Irwad ibn Sariya, qu'on a cité plusieurs fois: attachez-vous donc à ma sunna, à la sunna des califes, droit bien guidé, mordez-y avec vos molaires et prenez garde aux nouvelles choses à la religion, car toute nouvelle chose est une innovation dans la religion, et toute innovation dans la religion est un égarement. Et dans certaines versions du hadith, et tout égarement est en enfer. Et c'est pour cela qu'il est dit ici, et l'égarement et ses gens sont en enfer. Puis il dit, وقال المؤلف رحمه الله قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. هذا كلام عظيم خرج من رجل عظيم ذلكم الرجل هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا يستلزم أن من ركب ضلالة حسبها هدى أو ترك هدى حسبه ضلالة فإنه لا عذر له عند الله لأنه لا يفعل ذلك إلا من قصر في البحث عن الحق في الكتاب والسنة فلذلك لا عذر له. ولذا قال فقد بينت الأمور أي وضحت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عمل الصحابة رضوان الله عليهم وثبتت الحجة على الناس لقوله سبحانه وتعالى لأن لا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل فانقطع العذر فلا عذر لمن ابتدع في الدين أو ضل وجهل أحكاما بعد أن بينها الله وأوضحها للسان رسوله صلى الله عليه وسلم بما أوحاه إليه من كتاب وسنة. Donc Cheikh il dit, la parole de l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, dit, et pas d'excuse pour quiconque commet un égarement, la considérant comme une guidance. Ni pour une guidance qu'il délaisse, considérant que c'est un égarement. Car les choses ont été clarifiées, et la preuve a été dressée, et il n'y a plus d'excuse. C'est une parole sublime, qui vient d'un homme sublime, cet homme qui est le deuxième calife, Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée. Ceci implique que celui qui commet un égarement, le considérant comme une guidance, ou délaisse une guidance, la considérant comme un égarement, n'a pas d'excuse auprès d'Allah. Car ne commet cela que celui qui était négligent dans sa recherche de la vérité dans le Coran, et du Coran de la Sunna, dans le Coran et la Sunna. Et c'est pour cela qu'il n'a pas d'excuse. C'est pour cela qu'il a dit, les choses ont été clarifiées. C'est-à-dire clarifiées dans le livre d'Allah, et dans la Sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et la pratique des compagnons, et la preuve a été dressée sur les gens, et ce en raison de la parole d'Allah, de la traduction du sens est, afin qu'après la venue des messagers, les gens n'aient plus d'arguments devant Allah. Surat Nisa, verset 165. Il n'y a donc plus d'excuses. Il n'y a donc pas d'excuses pour celui qui innove dans la religion, ou s'égare, et ignore des jugements après qu'Allah les ait clarifiés. Et les ait clarifiés à travers son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il lui a révélé le livre et la sunna. Puis la parole de l'Barbahir, rahmahullah, وَذَلِكَ أَنَ السُنَّةَ وَالْجَمَعَةَ قَدْ أَحْكَمَ أَمْرَ الدِّينِ كُلَّهَا. أمر الدين قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. أقول يا شيخ نجمي رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة بينة في مصادرها ومرتبطة بالسنة وأهلها ومرتبطة بالسنة وأهلها فمن يريد الله به خيرا يوفقه لتلك المصادر يوفقه لتلك المصادر وييسر له صحبة حملة هذه العقيدة وأقصد به حملة مذهب أهل السنة والجماعة ومن أراد الله به شرا فإنه سيسر له سيسر لما خلق له. فمن نشا على أيدي أهل الصوفية والتصوف حسب أن ذلك هو الهدى فضل وأضل، ومن نشا على أيدي أصحاب العقيدة الجهمية وعاش عليها وصحب أهلها حسب أن تلك هي السنة فضل وأضل، ومن نشا على أيدي أصحاب الفكر الاعتزالي حسب أن ذلك هو السنة فضل وأضل، ومن نشا على أيدي أصحاب العقيدة الأشعرية حسب أن تلك هي السنة فضل وأضل، ومن نشا على أيدي أهل الرفض والتشيع الشتامين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمنتقصين لهم حسب أن هذا هو الحق فضل وأضل، ومن نشا على أيدي الخوارج التكفيريين حسب أن ذلك هو الحق فضل وأضل. لكن أهل هذه الأهواء لابد أن يجدوا ثغرات في عقيدتهم تبين لهم خلل المنهج الذي هم عليه في الاعتقاد. وهكذا أصحاب الإرجاء، وهكذا أصحاب الدعوات المعاصرة التي تعتني بالفضائل وتستهين بالعقائد حتى يحسب الناس أنهم على حق لما يرون من التمسك الظاهر عليهم، ومع ذلك قد زهدوا في أصل العقيدة وزهدوا فيه وهو التوحيد توحيد الألوهية، واستهانوا بما يقدح فيه وينقصه. Donc Cheikh il continue cette magnifique explication en disant رحمه الله تعالى. Sa parole, c'est-à-dire la parole de l'imam al-Barbahari, rahimahullah, ceci car la sunna et le consensus ont établi toute la religion. Et cela a été clarifié aux gens qui se doivent donc de suivre. Je dis, c'est-à-dire Cheikh Najmi, rahimahullah, la croyance des gens de la sunna et du consensus est claire dans ses sources, liée à la sunna et à ses gens. Celui à qui Allah veut un bien, il lui facilite la connaissance de ses sources. D'où pourquoi on cite beaucoup de sources. Et on cite les sources du Coran de la sunna. Il lui facilite d'être le compagnon de ceux qui portent cette croyance. Et je veux parler des gens qui portent la voix des gens de la sunna du consensus. Celui à qui Allah a vu un mal, il lui sera facilité ce pour quoi il a été créé. Celui qui a été éduqué par les soufites, considérant que cela est la guidance, est égaré et égare les gens. Et celui qui a été éduqué par les gens de la croyance jahmite, et vit dans cette croyance et accompagne ces gens, considérant que cela est la sunna, est égaré et égare les gens. C'est tous des groupes en fait en islam, des sectes en islam. Et celui qui grandit dans la pensée de l'i'tizal, considérant que cela est la sunna, est égaré et égare les gens. Et celui qui a été éduqué dans la croyance ash'arite, considérant que cela est la sunna, est égaré et égare les gens. Et celui qui a été éduqué par les rawafid, les chiites, qui insultent les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui les rabaisse en considérant que cela est la vérité, est égaré et égare les gens. Et celui qui grandit avec les kharijites, tekfirites, considérant que cela est la vérité, égare et égare les gens. Mais les adeptes de ces passions trouvent nécessairement des failles dans leur croyance qui leur montrent la déficience de la voie sur laquelle ils sont dans la croyance. Il en est de même pour les adeptes de l'irja. L'irja, en fait, c'est de faire sortir les actions de la foi. Donc pour eux, les al-murji'a, les actions ne font pas partie de la foi. Hein? Et de même pour les adeptes de ces groupes contemporains qui donnent l'importance aux vertus mais négligent les croyances à tel point que les gens de la voie, à tel point que les gens les voient comme étant sur la vérité. Et ce, en raison de ce qui leur apparaît d'eux extérieurement comme attachement à la religion, alors qu'ils ont en vérité délaissé le fondement de la croyance et ont incité à le délaisser, et c'est l'unicité. Il fait référence à qui? Jamais à Tablir. L'unicité des divinités. Et ils ont dédaigné ce qui la diminue et ce qui lui porte atteinte. Hein? Parce qu'ils n'appellent pas à la compréhension correcte du Tawhid. Ils n'appellent pas à cela, et à corriger les fautes dans le Tawhid, ce qui touche au Tawhid. Puis Cheikh il dit, et c'est la fin de sa parole, والمهم أن من يريد النجاح. هذا النصيحة، هذا النصيحة فانج بارت إن شاء الله، ها؟ encore quelques minutes. هذا النصيحة الشيخ نجمي رحمه الله. والمهم أن من يريد النجاح، فعليه بكتاب الله، ثم بكتب السنة المعروفة وهي الصحيح البخاري والصحيح مسلم والسنن الأربع ومسند الإمام أحمد وما يتبع ذلك من كتب الحديث وما يجمع آثار السلف كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق ومصنف سعيد بن منصور وكتب العقائد كتوحيد بن خزيمة والرد على الجهمية للإمام أحمد وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد والرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي وشرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة الألكائي وكتاب الإبانة الكبرى لابن بطة وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وغير ذلك من الكتب. هذه الكتب التي تبين الحق، وإياك أن تنزلق مع الحزبيين فتأخذ كتبهم وتسلك طريقهم الضيق وتمشي على نهجهم المعوج. الشيخ يسيل دي، احذر يا أخي المسلم أن تأخذ كتب هؤلاء، فإن حقها مخلوط بالباطل وسنتها مشوبة بالبدعة، فإذا أردت المشرب الصافي الذي لا كدر فيه فعليك بكتاب الله وبكتب السنة وبكتب الآثار وسلوك طريقة أهل الأثر الذين يأخذون العلم بالسند عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيهم صلوات الله وسلامه عليه وما قالوه فإنه لا يخالف الحق الذي هم عليه. ومن هنا تعلم أن قول المؤلف رحمه الله وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم الأمر الدين كله وتبين الحق للناس فعلى الناس الاتباع وترك الابتداع. قالوا كلام في محله ويلزمك أيضا ترك كتب أهل البدع إن أردت النجاة لنفسك. وفقني الله وإياك إلى الأخذ بالحق ونبذ كل باطل وبالله التوفيق. شيخ الدين رحمه الله تعالى ce qui est important de savoir que celui qui cherche le salut doit s'attacher au livre d'Allah puis au livre de la Sunna qui sont connus et qui sont l'authentique de Bukhari et celui de Muslim et les quatre Sunan et le Musnad de l'imam Ahmad et ce qui suit comme autre livre de hadith et aussi les livres qui regroupent les athars comme le Musnad d'Ibn Abi Shaybah et le Musnad d'Abdur Razzaq et le Musnad de Saïd ibn Mansour et les livres qui traitent de la croyance comme le Tawhid d'Ibn Khuzayma et le Radd al-Jahmiya de l'imam Ahmad et le Kitab al-Sunnah d'Abdullah ibn Ahmad son fils et le Radd al-Jahmiya d'Uthman ibn Sa'id al-Darimi et le Sharh Usul al-Ittiqad al-Sunnah de l'Al-Kai et l'Iban al-Kubra d'Ibn Battah et les livres de Cheikh l'Islam al-Taymiya et d'Ibn al-Qayyim son élève et Mohammed ibn al-Wahhab et d'autres livres encore. Ceux-là sont les livres qui clarifient la vérité et fais attention à ne pas glisser avec les partisans des groupes déviants al-Hizbiyoun et à ne pas prendre de leurs livres ni de suivre leur chemin étroit et de cheminer sur leur voie tordue. Prends garde mon frère en islam à ne pas prendre des livres de cela car ce qu'ils contiennent comme vérité est mélangé au faux et la sunna qu'ils contiennent est mêlée à l'innovation religieuse. Si tu veux la source pure sans aucun trouble alors attache-toi au livre d'Allah et au livre de la sunna et au livre des athar et suis la voix des gens du athar qui prennent leur science avec ces chaînes de transmission des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui ont pris de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'ils ont dit car cela ne peut contredire la vérité sur laquelle ils étaient et par cela tu comprendras que la parole de l'auteur et que la sunna et le consensus ont clarifié toute la religion et que la vérité a été mise en évidence aux gens. Les gens se doivent donc de suivre et de délaisser l'innovation dans la religion. Tu sauras donc que sa parole est judicieuse et implique aussi le délaissement des livres des gens de l'innovation religieuse. Si tu veux le salut pour ta propre personne, qu'Allah me facilite ainsi qu'à toi d'accepter la vérité et de rejeter toute chose fausse. Et c'est à Allah qui accorde le succès. Et je vous remercie encore pour cet accueil. Jazakumullahu khairan et pour votre bon soupçon envers nous. Wallahu a'lam subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa astawdi'ukum Allah alladhi la tadi'u wada'i'uhu.